Mais tout de suite, il est 18h, c'est l'heure du journal. Aurélie Kiefer, bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Une semaine après la démission de Gérard Collomb, toujours pas de remaniement. À l'Assemblée, Christian Jacob parle de mascarade et de tragicomédie. Il n'y a dans cette majorité et dans ce gouvernement aucune fébrilité, aucune impatience, lui répond Édouard Philippe. Première mobilisation syndicale de la rentrée pour dénoncer la politique sociale d'Emmanuel Macron. À Paris, les médias ont recensé 21 500 manifestants. Il y a eu quelques heures et une personne blessée. Quelle sera la baisse des émissions de CO2 imposées aux constructeurs automobiles pour préserver le climat? Les ministres de l'Environnement de l'Union européenne peinent à s'entendre. L'Union européenne et l'ONU réclament une enquête sur les circonstances de la mort de Fernando Albán. Cet opposant vénézuélien se serait suicidé en prison, selon les autorités. L'opposition dénonce un assassinat. 18h01 et toujours pas de remaniement. Édouard Philippe a bien vu Emmanuel Macron ce matin, mais il ne lui a pas remis sa démission. Journée normale donc, ou presque, avec une réunion à l'Élysée des principales filières agricoles pour leur demander de faire monter en gamme leurs produits et de mieux rémunérer les agriculteurs. Le chef de l'État a déjeuné avec le président ouzbek, puis il a reçu les dirigeants d'une vingtaine de groupes français du numérique avant de se rendre à la station F, un campus de start-up. Quant au Premier ministre, il s'est rendu à l'Assemblée nationale pour la séance des questions au gouvernement. Bonsoir Anne Fauquemberg.
Bonsoir.
La semaine dernière, la séance avait été mouvementée du fait de l'annonce de la démission du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Cet après-midi, c'était une fois encore une drôle d'ambiance.
Oui, drôle d'ambiance, c'est vrai, comme un flottement des ministres absents. C'est le cas de Jacques Mézard ou encore de la secrétaire d'État Delphine Gény-Stéphann, tous deux pronostiqués sur le départ. D'autres qui arrivent en plein milieu des questions au gouvernement, comme le secrétaire d'État Christophe Castaner. Cela fait un peu désordre. Et il n'en fallait pas plus au chef de file LR Christian Jacob pour s'enfoncer dans la brèche.
Mardi dernier, vous étiez l'homme le moins bien informé de France. Votre ministre de l'Intérieur était en train de quitter le gouvernement et vous ne le saviez pas. Et ce n'est pas votre capacité à composer un gouvernement qui va rassurer les Français. Depuis une semaine, la tragicomédie continue. Vous n'arrivez même plus à dissimuler l'affaiblissement du pouvoir exécutif. Ma question est donc simple. Jusqu'où, jusque quand cette mascarade va-t-elle continuer, monsieur le Premier ministre?
Voilà pour l'ambiance et la charge virulente de l'opposition à laquelle le Premier ministre Édouard Philippe, toujours ministre de l'Intérieur ce soir, tente de riposter.
Je veux vous rassurer, monsieur le Président. Il n'y a, dans cette majorité et dans ce gouvernement, aucune fébrilité, aucune impatience. Mais je veux vous dire une chose, monsieur Jacob. Nous ne transigerons en rien sur les engagements qui ont été pris par le président de la République. Nous mettrons en œuvre la politique que nous avons affichée et sur laquelle nous nous sommes engagés aux élections présidentielles et aux élections législatives.
Et signe que les réformes se poursuivent, en dépit de ce flottement à la tête de l'État, l'Assemblée a voté en première lecture la loi Pacte cet après-midi qui doit favoriser la croissance des entreprises. Reste que l'équation du futur gouvernement est bien mystérieuse ce soir. Alors démission ou pas d'Édouard Philippe ces prochaines heures, quelques éléments se dégagent toutefois. Un renforcement de la présence du MoDem. Le président du mouvement François Bayrou a regagné Paris ce soir. Une réorganisation également du ministère de la Cohésion des territoires qui devraient être chapeautés par le secrétaire d'État et porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner. Et puis Emmanuel Macron semble avoir un peu de mal à recruter sur sa gauche Mathieu Klein, le président PS du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, qui a été approché par l'exécutif. Eh bien, il aurait refusé d'entrer au gouvernement.
Anne Fauquemberg, un changement de tête sur la photo de rentrée du gouvernement ne donnera pas lieu à un changement de politique, estimait ce matin le secrétaire confédéral de la CGT, Fabrice Angéhi. C'est bien la mobilisation qui pourra permettre ce changement de politique indispensable pour l'efficacité économique et pour la justice sociale, disait-il encore. Eh bien, aujourd'hui, la mobilisation était modeste, malgré l'appel lancé par la CGT, FO, Solidaires et des organisations de jeunesse, UNEF, FIDEL et UNL, pour réclamer une politique moins libérale. À Paris, les médias ont compté 21 500 manifestants, lycéens, étudiants, salariés, fonctionnaires et retraités. Raphaël Ebenstein, vous étiez dans le cortège parisien.
Non au coup d'état social, une des banderoles visibles dans le cortège était là pour donner le ton, un ton offensif contre la politique du gouvernement, contre Emmanuel Macron, particulièrement ciblé par les manifestants. À l'image de Michel, retraité d'EDF et militant Force Ouvrière.
De toute façon, ce gars-là, qu'est-ce qu'il a foutu Il sort d'où? De la cuisse de Jupiter. Ben voilà. Et puis, qu'est-ce qu'il a foutu? Est-ce qu'il a gratté, ce mec-là? Il est pas comme nous, il met pas les mains dans le cambouis, quoi.
Et alors que la tension est montée à plusieurs reprises, avec quelques dizaines de jeunes proches des Black Blocs jetant des projectiles sur les CRS, la question du remaniement gouvernemental semble être passée plutôt inaperçue, ce que résume Emmanuel, agent des finances publiques et adhérent de Solidaires.
On est vraiment sur un petit remaniement, ils s'amusent entre eux, c'est tous les copains, c'est tous la même politique et ça ne va pas changer grand-chose. Donc ce qui va se passer à l'Élysée, quelque part on s'en fiche, c'est pas notre problème, c'est leur. Et nous, on veut que ça change autrement et pas comme ils veulent le faire eux.
Mais personne ne semble en réalité se faire d'illusions quant à un réel changement de politique de la part du gouvernement.
Et une centaine d'avocats et magistrats se sont rassemblés devant le Sénat avant le début de l'examen par les sénateurs du projet de loi de réforme de la justice. Antoine Marette, vous suivez justement au Sénat cet examen du projet de loi porté par la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. Les sénateurs de l'opposition ont relayé les inquiétudes des manifestants.
Dure tâche pour Nicole Belloubet. La ministre de la Justice entame dans l'hémicycle du Sénat un véritable marathon prévu pour durer 2 semaines. Dès le début de son intervention devant la Chambre haute, la garde des Sceaux paraît sur la défensive.
J'ai entendu, mesdames et messieurs les sénateurs et les sénatrices, j'ai entendu certains professionnels du droit s'exprimer dans la presse récemment, dans des termes souvent bien différents de ceux employés lors des réunions de travail que j'ai pu tenir avec eux. Ils s'exprimaient pour dénoncer les atteintes qui seraient soi-disant portées à la garantie des droits. J'ai d'ailleurs entendu en même temps et d'un autre côté que ce texte offrait trop de garanties au risque d'entraver le travail des enquêteurs. Tout cela est excessif et me semble infondé. Ce sont des postures et je souhaite que nos débats soient ici l'occasion de clarifier les choses.
À droite comme à gauche, les sénateurs sont vent debout contre cette réforme. Ils regrettent globalement le budget alloué à la justice, 24% d'augmentation sur 5 ans, ils en réclament 34%. À gauche, chez les écologistes, Esther Benbassa reproche au texte de faire entrer dans le droit commun un certain nombre de mesures relevant du régime d'exception au nom de la lutte contre le terrorisme. La sénatrice n'est pas avare en citations.
À ce sujet, Robert Badinter disait « Nous passons d'une justice de liberté à une justice de sûreté. De telles mesures sont aujourd'hui appliquées dans des régimes autoritaires, ce qui devrait nous inciter à une certaine prudence. Comme le disait Montesquieu, il n'y a point de plus cruelle tyrannie que celle que l'on exerce à l'ombre des lois et avec les couleurs de la justice. »
Esther Benbassa qui a rejoint dans l'après-midi la centaine d'avocats et de magistrats qui se sont rassemblés devant le Sénat.
Antoine Marette. Leur bagarre dans l'aéroport d'Orly avait occasionné 50 000 euros de dégâts. Les rappeurs Booba et Kaaris se sont condamnés à 18 mois de prison avec sursis. Le tribunal correctionnel de Créteil les condamne également à 50 000 euros d'amende chacun. Pour les 9 proches des rappeurs, jugés en même temps qu'eux, les peines vont jusqu'à 12 mois d'emprisonnement avec sursis. Le parquet de Paris a ouvert une information judiciaire contre Lactalis pour tromperie et blessures involontaires. Décision prise après une enquête préliminaire de plus de 9 mois portant sur l'intoxication de bébés par du lait infantile contaminé à la salmonelle. Au moins 53 nourrissons ont été atteints de salmonellose en France fin 2017 après avoir consommé un produit pour enfants sorti de l'usine de Cran en Mayenne. Au lendemain des prévisions alarmantes des experts mondiaux du climat, les ministres de l'Environnement de l'Union européenne sont réunis à Luxembourg pour tenter de tenir les objectifs de l'accord de Paris. Le dossier sur la table aujourd'hui, c'est l'ampleur de la baisse des émissions de CO2 à imposer aux constructeurs automobiles. Et les 28 sont divisés, Quentin Dickinson, sur le maximum que l'on pourra autoriser.
À noter tout d'abord, cette négociation porte exclusivement sur les voitures de tourisme et sur les utilitaires légers dotés d'un moteur à explosion, puisqu'il s'agit de réduire les émissions de dioxyde de carbone et de dioxyde d'azote, tous deux qualifiés de gaz à effet de serre. Pour les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, ce sera une étape suivante, paradoxalement moins critique, dans la mesure où l'entretien de ceux-ci est bien plus régulièrement assuré et que les propriétaires de flottes n'hésitent pas à débourser des sommes importantes pour la mise à niveau de leurs véhicules les plus anciens. La France se montre un bon élève de la classe écologiste et le récent cri d'alarme du GIEC, rappelle le ministre français de l'Environnement, doit persuader l'ensemble des 28 de s'aligner sur des positions exigeantes. François de Rugy.
Après la publication du rapport des experts sur le climat, nous pensons encore plus qu'il faut que l'Union européenne ait des ambitions fortes de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc nous allons travailler aujourd'hui avec nos collègues européens pour rehausser les engagements de l'Union européenne. C'est notre objectif français. Et par ailleurs, nous sommes également pour une ambition concrète sur les émissions de CO2 des voitures en 2030.
La partie de bras de fer, ici aujourd'hui, n'oppose pas les pays producteurs d'automobiles à ceux qui ne le sont pas. Ainsi, la Suède, pourtant gros fabricant de véhicules de tourisme, de loisirs et de poids lourds, figure-t-elle parmi les plus acharnés à limiter la pollution automobile. Au contraire, la République tchèque, la Roumanie et la Slovaquie, également producteurs automobiles de masse, sont-ils vent debout contre les normes trop contraignantes. Il est vrai que dans leur cas, ce seraient des centaines de milliers de véhicules déclassés en Europe occidentale qui viendraient inonder leur marché.
Quentin Dickinson à Luxembourg. En Allemagne, la justice ordonne à la municipalité de Berlin d'interdire aux véhicules diesel les plus polluants d'emprunter certains axes de la capitale. Et puis aux Pays-Bas, suite à la procédure intentée par une ONG, l'État est condamné en appel à réduire ses émissions de gaz à effet de serre d'au moins 25% d'ici 2020. C'était la femme la plus en vue du gouvernement de Donald Trump. Nikki Haley, l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, crée la surprise en annonçant sa démission. Donald Trump salue son départ, salue son travail, sans fournir d'explications claires sur les raisons de son départ, Grégory Phillips.
Nikki Haley et Donald Trump, tout sourire, dans le bureau ovale. Le président confirme que dans 6 mois, sa grande amie, comme il l'appelle, quittera son poste d'ambassadrice américaine aux Nations Unies. Elle ne donne aucune explication, si ce n'est un besoin de souffler après 6 années intenses en tant que gouverneur de Caroline du Sud et 2 aux US. Le départ de Nikki Haley est donc acté, mais ce qui surprend, c'est le moment de l'annonce, à 4 semaines seulement des élections demi-mandat. Pourquoi aujourd'hui, depuis l'arrivée de Mike Pompeo au département d'État au printemps, Haley était un peu plus dans l'ombre, cela a pu jouer. On sait aussi que cette fille d'immigré indien âgée de 46 ans est ambitieuse. En s'éloignant de Donald Trump, est-elle en train de se préparer un destin politique? Dans un grand sourire, elle jure qu'elle ne sera pas candidate à la présidentielle de 2020 et qu'elle soutiendra Trump. Nikki Haley sait en tout cas qu'elle est populaire dans les rangs républicains et qu'elle est sans doute un jour ou l'autre promise à de plus hautes fonctions.
Grégory Phillips à Washington. Le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme réclame une enquête transparente sur les circonstances de la mort de l'opposant vénézuélien Fernando Albán. Selon les autorités de Caracas, Fernando Albán s'est suicidé pendant sa détention. Mais cette version des faits est contestée par l'opposition qui dénonce un assassinat. On retrouve Benjamin Delisle à Caracas.
La mort de Fernando Albán sème le trouble dans le pays. Elle a été annoncée hier à la télévision d'État par Tarek Saab, le procureur général. Selon lui, Fernando Albán aurait, je cite, « demandé à aller aux toilettes et une fois là-bas se serait jeté dans le vide depuis le 10e étage ». Mais cette explication ne convainc pas l'opposition, d'autant que le ministre de la Justice vénézuélien, Néstor Reverol, en a donné une autre légèrement différente. Selon lui, il se serait jeté depuis une salle d'attente alors qu'il allait être déféré devant un tribunal. Son parti, Primero Justicia, dénonce un assassinat et tient Nicolas Maduro pour responsable. Même chose pour Julio Borges, le président en exil de l'Assemblée nationale acquise à l'opposition. Lui affirme avoir été informé par une source au sein des services de renseignement que Fernando Albán était déjà mort avant sa chute du 10e étage. Hier soir, une dizaine d'opposants se sont réunis devant le siège des services de renseignement avec une pancarte. Ce n'est pas un suicide, c'est un homicide. Face à cette situation, l'ONU et l'Union européenne ont demandé une enquête transparente ce mardi. La porte-parole du commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani, a rappelé que Fernando Albán était détenu par l'État et que celui-ci avait, je cite, « l'obligation d'assurer sa sécurité et son intégrité personnelle ».
L'Union européenne appuie les États-Unis dans leur demande d'enquête après la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Très critique du pouvoir saoudien, Jamal Khashoggi, collaborateur du Washington Post, s'est rendu il y a tout juste une semaine au consulat d'Arabie saoudite d'Istanbul pour des démarches administratives. Depuis, il n'a plus donné signe de vie. Les autorités turques penchent pour la thèse d'un assassinat. Elles ont obtenu aujourd'hui l'autorisation de Riyad pour mener une perquisition dans l'enceinte diplomatique. Mais cette annonce n'est pas suffisante pour les militants des droits de l'homme qui appellent Ankara à sanctionner les autorités saoudiennes. Reportage d'Anne Handlauer à Istanbul.
Devant le consulat d'Arabie saoudite, au milieu des gratte-ciel de ce quartier d'affaires du centre d'Istanbul, les militants des droits de l'homme se relaient pour réclamer autant à Riyad qu'à Ankara la vérité sur le sort du journaliste Jamal Khashoggi. Gülseren Yoleri, présidente de l'Association des droits de l'homme.
Jamal Khashoggi'nin kaybolmasında da
L'État turc partage avec les autorités du consulat d'Arabie Saoudite la responsabilité de la disparition de Jamal Khashoggi survenue sur son territoire. Le consulat d'Arabie Saoudite ne s'en sortira pas en autorisant la fouille du bâtiment. Il leur revient de prouver qu'il en est sorti sain et sauf.
Le député d'opposition Sezgin Tanrıkulu, qui préside la commission des droits de l'homme au Parlement turc, appelle quant à lui le gouvernement à décréter sans plus attendre des sanctions contre l'Arabie Saoudite.
Le gouvernement doit immédiatement revoir ses relations diplomatiques avec l'Arabie Saoudite, déclarer son consul persona non grata et rappeler l'ambassadeur de Turquie en Arabie Saoudite. Les yeux du monde sont fixés sur nous. Le gouvernement turc doit d'urgence sortir du silence et prendre des mesures concrètes.
Mais Ankara préfère, pour l'instant, attendre les conclusions de l'enquête judiciaire. Des conclusions que le président turc, Recep Tayyip Erdogan, prévoit d'annoncer en personne.
Anne Handlauer, à Istanbul, dans la province syrienne d'Idlib, les rebelles et les djihadistes ont retiré la plupart de leurs armes lourdes de la future zone démilitarisée. Ils ont jusqu'à demain pour le faire. Cette zone tampon doit être instaurée d'ici lundi prochain, selon l'accord signé entre Moscou, allié de Bachar el-Assad, et Ankara, soutien des rebelles. Et puis ce soir, nous avons choisi de donner la parole à deux artistes syriens. Mohammad et Aza sont réfugiés au Liban, comme plus d'un million de Syriens. Leurs œuvres expriment évidemment ce qu'ils ont vécu. Et vous les avez rencontrés à Beyrouth, Aurélien Colli.
Une pièce sombre dans laquelle on a tendu une couverture en patchwork. De chaque côté dépasse des mains et des pieds. Et devant, un personnage caché sous un drap noir. La photo est de Mohamed Rayata, artiste syrien réfugié à Beyrouth, prise à Damas en 2011, au début de la révolution et de la répression.
Il y avait quelque chose qu'on ne comprenait pas, qu'on ne voyait pas. Et ce sentiment qu'on se dirigeait vers quelque chose de mauvais, avec de plus en plus de morts. Et ça avait commencé avec des revendications simples. Et ça tournait mal. Le drap noir, c'est parce qu'on ne visualisait pas ce qui se préparait, ce vers quoi on allait. Et c'est parce qu'on ne voyait pas.
Exilé à Beyrouth, Mohamed a continué la série. Toujours le même patchwork protecteur comme sa mère en confectionnait, pour envelopper cette fois des réfugiés syriens, une jeune femme assise sur un muret qui s'effondre, une enfant dans une maison envahie par la végétation, un homme sur un bateau en train de regarder au large.
Pour moi, il y a toujours l'idée de l'immigration parce que j'ai vu beaucoup de gens qui sont partis. Et je me demande, est-ce que je dois rester ici? Est-ce que je dois partir pour une nouvelle vie ou bien rentrer en Syrie un jour? Mais quand? Tu ne sais pas. Il y a beaucoup de questions sans réponse.
Coloré, contrasté, presque esthétique, la série de portraits s'appelle « Recoudre ma Syrie » parce que pour Mohamed,
c'est comme si la Syrie était en plusieurs morceaux et que tu es en train de la recoudre, comme le patchwork, des morceaux qui ensemble font une jolie couverture. Peut-être que le pays peut se réunifier, peut-être que tout ce qui s'est passé, ce n'est pas que mauvais, que ça a permis d'éclaircir des choses.
Cinq ans après son arrivée à Beyrouth, Mohamed essaie de se redresser, comme il dit. Même thérapie pour Aza, passée elle par les prisons syriennes. Son travail, c'est une série de gravures intitulées « Traces ». Trace de ce qu'elle a vécu, trace d'une révolution qui se voulait pacifique, explique-t-elle devant les deux premières gravures. Un couple enlacé qui fait lever de la victoire, des fantômes blancs fauchés par des tirs.
Ça, c'est le début, une manifestation de civils avec des jeunes. Il n'y a pas d'islamistes ou autres, on était tous ensemble pour demander la liberté. Après, la répression commence et c'est l'autre gravure. Il y a le blanc, les revendications, et le noir, la répression, comme une guerre du noir contre le blanc.
Les autres dessins racontent la suite. Une silhouette obligée d'embrasser une botte de militaire, une femme nue accroupie interrogée par la police, un visage tuméfié dessiné d'un seul trait, ou encore des croquis de femmes qui ont partagé sa cellule. Des images qui hantent encore Aza, soutenue comme Mohamed et d'autres artistes syriens par des galeries de Beyrouth comme celle de Nelcy Massoud.
C'est malheureux mais c'est comme ça. Les plus beaux tableaux sont venus d'une misère, d'une guerre, d'une situation horrible. L'artiste éclate, il ressort des choses personnelles, mais pour la société, provoquer une société, l'émanciper. Aux deux, je souhaite une même chose, qu'ils puissent aller voir leurs parents en Syrie, qui est à 2 heures d'ici. Et pourtant, ils ne peuvent pas le faire.
Un reportage d'Aurélien Colli à Beyrouth. Et demain s'ouvre à Paris l'exposition Cité millénaire. L'Institut du monde arabe propose un voyage en trois dimensions dans les villes d'Alep en Syrie et de Mossoul en Irak. Demain mercredi, le soleil dominera du centre au nord-est. L'épisode pluvieux se poursuivra au sud avec encore de forts cumuls de pluie attendus sur le Languedoc et le Roussillon, mais surtout sur les Cévennes. Les températures seront exceptionnellement douces sur la moitié nord. Les minimales afficheront généralement 6 à 16 degrés. Il fera 20 à 25 l'après-midi, 25 à 28 dans le centre du pays. Ce journal a été préparé avec Julien Loquet.